Alain Fournier, lettre au petit B. La chapelle d'Angillon, mardi soir, 10 août 1908. Mon cher ami, je suis à la chapelle en permission de 10 jours depuis samedi. Mon examen d'élève officier au Mans est terminé. Je ne crois pas être reçu. J'écris chez ma grand-mère, dans la chambre du devant, qui donne sur la route, au milieu du désarroi causé par un plaquage monstre de Jacques. Sur la grande route qui traverse le bourg, d'une côte à l'autre, en plein soleil, nous essayons des vitesses et des tours. Il a voulu faire encore plus fort, et, à genoux sur le siège, s'est flanqué sur le dos. Les vieilles femmes qui cousaient au fond des obscures petites maisons se sont précipitées avec des cris et des flacons de vinaigre. Ta lettre de l'autre jour m'a beaucoup intéressé. Je l'ai trouvée en rentrant du Mans à minuit chez moi, dans la maison déserte, noire, où le plancher craquait. Je vais t'en reparler. Ce que tu me dis de mes lettres et de la cassette où tu les enfermes me donne un remords. Peut-être, en tout cas je ne devrais pas le dire, peut-être les ai-je écrites trop négligemment, ces lettres, sans assez d'abandon ni de dévotion. À qui la faute? Je demande quelqu'un qui croit et qui veuille, quelqu'un pour qui tout soit possible, auprès de qui tout soit possible, un pour qui rien n'existe mais seulement son désir. Je te voudrais comme moi, et que dans ton pays comme dans le mien, on se sente parfois assez fervent et assez haut pour rencontrer son amour au détour d'un chemin. À quoi bon appeler un compagnon si lui aussi est écrasé par les doutes, anéanti par les impossibilités? Je te voyais trop sur les routes sans but de la Beauce indifférente, penser « il y a cela et rien de plus, je suis seul au milieu de la terre et ma misère est grande, mais maintenant un grand amour est venu ». Et maintenant, n'est-ce pas, il n'y a plus la plus petite impossibilité. Force secrète, délice, qui fait presque sourire. Celle que j'aime est loin, est perdue, et pourtant, quand on parle d'amour auprès de moi, la force de notre amour est 1000 fois plus forte que moi-même, et plus près de moi que le battement de mon cœur. Jacques a dû pressentir en toi cela. Il te demande de lui écrire, il te répondra à fond. Nous parlons beaucoup en ce moment de ce que nous voulons faire et de ce que nous avons commencé. Après subtilité, phrase qui se déroulait le long des haies, je disais « Mon livre sera ce roman d'amour que rêve Méza, et qu'on ait seulement le temps de dire « Ah !» Pour l'instant, je suis terriblement anéanti. Je me sens ici de passage, sans le temps seulement de m'accouder à la petite barrière blanche et de réfléchir. Pour la première fois de ma vie en venant de Paris, et les 2 premiers jours, je me suis senti distrait et morne, incapable de comprendre une fois de plus ma campagne, incapable d'y imaginer les chères âmes dont je la peuple et les délicieuses histoires qui s'y passent de l'autre côté des routes, au bout des lourdes allées de marronniers. À 2 heures, début de la soirée, tout fait la sieste dans les champs. Sur les routes vibrantes de soleil et lourdes d'ombrage, je passe comme le roi du domaine que j'ai créé. Et j'ai découvert pour les jeunes âmes cachées, aboutissant à un coin de route, un chemin de domaine interdit aux automobiles. Hier, à bicyclette, ce que je viens de dire, mais le jour d'avant, au soir, quelle horreur, quelle nuit, quel silence. Au point de penser à elle, je n'ai pu le noter autrement qu'ainsi. Ceci ne servira jamais à rien, ne répond à rien, et est déjà perdu pour tout autre que pour toi. Essai de transposition. C'était ce soir où la grande rosée descendait sur les prairies et dans le jardin. Comme un grand animal mystérieux qui remonte avec la nuit vers les maisons, elle était revenue, dressée derrière la haie, et me regardait. C'était son regard encore si pur que le mien, oh, se remplissait de larmes. C'était elle encore près de moi, par ce soir où je suis mort, délice épouvantable. Comme un rêve qu'on raconte, où les défunts sont apparus, j'étais dans le jardin, et l'on baisse la voix. Ah, il s'agit bien de baisers et de mains sur l'épaule. Mais les noces sont finies, et nous sommes tout seuls dans le grand champ de brume ténébreuse, et jamais la pureté de notre mystérieux amour ne m'a fait aussi peur. Il n'y a plus personne entre nous, et vous êtes en face de moi, mais le saisissement de cette gloire sans nom, regard si pur où toute douceur se fond, beau corps habillé, et jeune âme de femme rose, dans le soir tombé qui me regarde, Ah, gloire trop impossible pour être si près de moi. Trop de douceur, l'épouvante me gagne, et c'est une défunte épouvantable, une morte depuis longtemps que voici dressée de l'autre côté de la haie. Ce regard qui fait fondre le cœur, tant il est pur, est insistant et fixe comme celui de la grande bête qui rôde le soir. Ou bien que ce soit simplement une étoile, perdue entre les branches des ifs par ce soir brumeux d'été où je suis mort aussi. H.F. Je trouve dans ta lettre deux passages tout à fait essentiels. Premièrement, entre guillemets, raconte-nous ta vie, Ménalque, dit Alcide. Ménalque ne peut pas raconter sa vie, il n'a qu'un souvenir et oppressant. J'évite cependant de disserter là-dessus. Je lisais cela couché à 1h30 du matin, rue Dauphine, seul, et pas assez ému à mon gré du départ le lendemain matin à 6h. Deuxièmement, entre guillemets, celui par rapport à qui on se détermine, en ennemi souvent, ce qui revient à dire en élève. Mais ceci se rapporte à autre chose. Rivière m'écrivait dernièrement que ces deux grandes haines du moment étaient l'hôte et moi. Une autre fois, il considérait Claudel et moi comme deux ennemis. Ta dernière lettre l'a fait s'intéresser beaucoup à toi, à cause du désir de réfutation qu'elle lui a donné. Voici un cas particulier qui semble te donner raison. Mais à toutes ces gloses, je préfère la phrase qui fasse dire « Ah !» comme après un baiser ou un verre d'eau. Je me rappelais à midi aujourd'hui la façon dont tu dis, quand je n'admire pas encore assez à ton gré, « Ah, mon vieux !» avec le mouvement de lever un peu la tête et de se mordre les lèvres. J'ai lu Nietzsche, une dissertation de la généalogie de la morale. J'y vois une grande habileté, une grande force de moquerie, une haine terrible du christianisme. Surtout, c'est quelque chose d'essentiel, par où il faut avoir passé, et où nous sommes tous inconsciemment passés. C'est un peu, entre guillemets, notre père à tous. À part Mounesully, dit Gide dans une lettre à Angèle, que tu connais, je ne connais pas d'acteur plus grand que Max. Quand jouera-t-il Marc-Antoine de Julius César? Quand, etc., etc. Quand le Saül de Gide? Et nous ajoutons, quand le tête d'or de Claudel? Quand la chère Suzanne Després jouera-t-elle la jeune fille Violaine? L'hôte, qu'une place de dessinateur trouvée par Maurice amènera probablement à Paris, veut, comme le lui a soufflé Rivière, faire jouer Claudel. Il est d'avis, comme moi, que des acteurs le joueraient moins bien que des amateurs, sans éducation théâtrale. En es-tu et quel rôle retiens-tu? Je te serre la main. Henri. Hein, maman a trouvé ta carte exquise, et t'en remercie.